Chapitre 34.
Nicolas!
Audra était trempée, tremblante. Des traces noires de maquillage avaient coulé sur ses joues. Elle se colla à lui et pleura. Il l'étreignit lui aussi et son cœur s'emballa dans sa poitrine. Il n'avait pas étreint une femme avec une telle intensité depuis Camille.
« Je ne veux pas rester seule, »
murmura-t-elle au creux de son épaule.
« Pas cette nuit, pas après ce qui s'est passé. »
Autour, de pâles lueurs brillaient par les fenêtres des péniches, un théâtre à la fois triste et beau. Il l'emmena à l'intérieur, alla déplier des serviettes. Au milieu du salon, Audra fixait les bougies comme hypnotisée. À quoi pensait-elle? Nicolas se demanda si elle était rentrée chez elle ou si elle avait erré dans les rues de Paris pour faire taire la douleur. Et puisqu'elle ne bougeait pas, il lui passa la serviette sur les cheveux, puis sur les épaules. Après avoir ôté son blouson, elle finit par se blottir dans le moelleux de l'éponge.
« Il faut qu'ils vivent, Nicolas. Florence et Bertrand ne peuvent pas mourir comme ça. »
Elle savait donc que la vidéo avait été coupée avant la fin. Était-elle retournée au bastion après son départ précipité? Avait-elle appelé Charcot? Elle lui paraissait toute cassée, brisée de l'intérieur. Nicolas avait déjà connu ça, la violence d'une rencontre, la perte de contrôle dans un moment de fragilité, le tourbillon qui vous entraîne dans un flux d'émotions incontrôlables, comme pour vous isoler de la fureur du monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé de si grave, Audra? Quelles horreurs tu as traversées dans le sud pour venir seule ici? Elle ne lui répondit pas et alla cueillir ses lèvres. Nicolas aurait aimé la repousser, lui dire qu'elle commettait une erreur, que tout allait trop vite, que c'était le désespoir qui l'avait ramenée ici. Mais il n'en eut pas la force ni l'envie. Elle était là et elle l'embrassait dans le froid pour s'échapper, fuir le monde. Elle répétait « Nicolas » et c'était tout ce qui comptait. Elle souffla sur les bougies et seul le miroitement du fleuve en colère esquissa leur silhouette. Comme une créature des abysses, elle cherchait l'obscurité et dans sa fougue, elle entraîna Nicolas vers le lit sous le brasier de ses baisers et le froissement des vêtements qu'on ôte. Il n'y eut pas de mots échangés. Parler, c'était réfléchir, et aucun d'entre eux ne voulait réfléchir. Nicolas s'abandonna aux ténèbres, une nuit profonde, froide et sans étoiles, dans laquelle il interdisait à Camille de pénétrer. Pourtant, il la sentait là, penchée sur son épaule, mais cette fois, l'envie surpassait l'angoisse de sa présence fantôme. Les hormones se distillaient telles l'héroïne dans ses artères, des poussées délirantes, des vagues de plaisir si intenses que, dans l'étreinte, il s'accrocha à Audra avec la force du boa qui prive sa proie d'oxygène. Et plus il serrait, plus elle serrait de son côté comme deux parties d'un soufflet. Les doigts contractés dans son dos, deux corps brûlants roulés dans les draps qui tanguaient au rythme du bateau. Elle dessous, lui dessus ou l'inverse. À aucun moment, ils ne distinguèrent leurs visages, ne découvrirent leurs expressions, parce qu'il ne pouvait y avoir de lumière cette nuit-là, ni dehors, ni dans leur cœur, et que faire l'amour au milieu de toute cette eau, c'était un retour aux origines du monde, de leur monde, et sans doute le seul moyen de rester en vie quand la mort flottait tout autour. Plus tard, Nicolas s'assit sur le bord du lit, reprenant son souffle. Audra se tenait lovée contre lui, enfouie jusqu'au cou sous la couette. Elle ne parlait pas. Elle le caressait, ses petites mains chaudes contre ses flancs. Malgré tout, dans ce qui devait être l'un des moments les plus rudes de sa carrière de flic, voire de sa vie, Nicolas ne s'était jamais senti aussi vivant. Il se tourna vers elle. « Tu as moins peur maintenant ?» Elle ne répondit pas, ne posa pas de questions. Juste une présence, une trace féminine pareille à un parfum dans l'air. Son souffle contre sa peau gardait sa chaleur fauve, ses caresses transpirées d'intensité. Par le hublot, sur la droite, les lumières de la ville tanguaient. des oranges, des jaunes, se mêler en touches subtiles aux teintes plus foncées de la surface du fleuve. Ce décor évoquait un tableau de Monet. Leur corps était épuisé. Il faudrait dormir 2 ou 3 heures pour repartir au combat. Nicolas éprouva le besoin de caresser la chevelure d'Audra. Il lui sembla effleurer un nuage. Il n'arrivait pas à saisir que ce moment était réel, qu'une femme dont il tombait amoureux se tenait là, dans son lit. Il existait, enfin. La sonnerie d'un portable retentit une fois, signalant l'arrivée d'un message. Aussitôt, Nicolas sentit les mains d'Audra se crisper dans son dos et disparaître aussi vite. La jeune femme s'écarta, ne bougea plus durant quelques secondes. Elle pouvait aller à gauche, vers le téléphone, ou à droite, pour revenir vers lui et reporter la lecture de ce message à plus tard. Nicolas ne réagit pas. Il ne voulait rien forcer. Audra se redressa et posa le pied de l'autre côté du lit, à gauche. Elle avait laissé la couette en place, comme si, soudain, elle ne voulait plus déranger. Un rectangle de pixels lumineux se dessina dans la nuit et éclaira son profil. Nicolas put voir la façon dont elle se mordit la lèvre inférieure et le voile funeste de la culpabilité qui affaissa ses paupières. Et il sut que l'histoire ne s'écrirait pas telle qu'il l'espérait, parce que rien n'était simple dans la vie. Elle éteignit, ramassa vite ses affaires, les renfila dans le noir. « C'est lui ?» demanda Nicolas.
« Je suis désolé. Je n'aurais pas dû venir ici. »
« Bien sûr que c'est lui. Ton Roland, qui d'autre que lui enverrait des messages à 2 heures du matin ?» Nicolas n'arrivait pas à se remettre de la violence de cette soirée. Après le shoot et l'extase, la descente. Cruelle, insupportable. Le flic la connaissait par cœur. La descente vous précipitait vers l'abîme. Vous broyez les tripes à un tel point que seule l'envie de vous écraser au fond vous importait.
Alors c'est tout? L'histoire s'arrête là? L'histoire? Quelle histoire? Je suis navré, Nicolas, mais elle n'a jamais commencé. Ce soir, c'était... Enfin, tu comprends, j'espère.
Plus rien. Feulement des vêtements, zip de la fermeture éclair, frottement des semelles. Le tout en moins d'une minute, l'impression d'un cambriolage du cœur, le claquement de ses pas. Nicolas crut qu'elle allait sortir, disparaître sans rien ajouter, sans même se retourner, mais elle lui accorda une dernière parole, loin là-bas, à la porte, alors que sa silhouette reprenait forme dans le clair-obscur des lumières diffuses. Une parole qui lui perça le cœur tant elle était neutre.
« On se voit au bastion. »
Et elle disparut dans ses vêtements trempés, claquant cette fois la porte derrière elle comme une rupture ferme et définitive. Seule, dans le froid, le noir et privé d'électricité, Nicolas alla raviver la flamme d'une bougie. Le bateau grinçait et la pluie riait sur la tôle au-dessus de sa tête. Il se servit un grand verre de gin mélangé à du coca. Il le but cul sec et s'en resservit un quelques minutes plus tard.
« Tu vas voir. »
Il alla ramasser son carnet et y récupéra les identifiants d'un des nombreux faux profils Facebook créés pour ses recherches dans des affaires criminelles. Il choisit celui d'Angèle Benlassoric, anagramme de Nicolas Bélanger. 34 ans, célibataire, physique méditerranéen, habitant Nice, et à l'aide de son téléphone, se connecta au réseau social. Il tapa une requête sur Roland Cazulois. Un seul résultat. La photo, le type à la chevelure de feu, c'était lui. Nicolas cliqua sur le lien, mais tomba sur un compte privé. Bien sûr. Il fit une demande d'amis avec pour message « Bonjour Roland, nous nous sommes connus à la fac de droit à Toulon entre 2002 et 2004. Peut-être ne te souviens-tu pas de moi, mais j'aimerais renouer contact avec mes anciens camarades. Merci de m'accepter comme ami. » Nicolas hésita avant d'appuyer. À quoi jouait-il? Il vida son verre et cliqua. avec l'espoir que l'autre finisse par lui répondre. Il ressentait les effets fulgurants de l'alcool quand, soudain, la flamme de la bougie vacilla et s'éteignit, soufflée avec force malgré l'absence de courant d'air. Nicolas eut un frémissement.
« Je ne cherche pas à t'oublier, je te le jure. »
Il ralluma avec son briquet et fixa la flamme, espérant une réponse, un vacillement, mais elle restait droite et s'étirait à peine. À demi chancelant, il ouvrit le tiroir de la commode. Il revint à table avec la lettre écrite à la salpêtrière qu'il déplia en douceur.
« Ce qui est arrivé cette nuit n'aurait pas dû arriver. Tu vois, j'ai cru que... j'ai été trop naïf. »
Il se tut et offrit l'un des coins de la lettre à la flamme qui se délia en une longue langue orangée. Celle-ci dévora le papier.
« Je ne veux pas t'oublier. Je ne veux pas guérir de toi. »
De ces mots, censés apporter la libération de son âme, ne subsistèrent que cendres et larmes.